Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Fanny Richer, Virginie Leduo, Catherine Donnet et Marie Vidal, réalisée par Jean-Christophe Francis, accompagnée ce soir à la prise de son de Clément Daté. Si vous êtes à l'université d'été du PS en ce moment, vous pouvez toujours nous envoyer des cartes postales vintage à l'effigie de François Mitterrand. Et si vous revenez des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, vous pouvez toujours partager vos souvenirs, remerciements et photos de groupe sur leur compte Twitter ou leur site internet. Enfin, si vous préférez plutôt aller à celle des Républicains la semaine prochaine, vous pouvez déjà aller sur le site en question pour organiser votre covoiturage jusqu'au Touquet. Les programmes sont succincts et le sens de ces événements se concentre sur la cohésion d'une communauté politique qui se doit de rester à tout prix groupée en ces temps de division et de défection. Rappelons-le, l'université d'été politique existe depuis 40 ans et elle est la création des jeunes giscardiens qui s'étaient réunis à Montpellier pour exister à nouveau dans les médias et pour former des militants. Il y avait donc déjà en 1975 des jeux de rôle, des stages pour apprendre à s'exprimer à l'oral, pour distribuer un tract, tenter de véhiculer avec le plus de brio possible les idées de sa formation politique. C'est bien sûr toujours le cas aujourd'hui, formations différentes selon les partis et qui ne s'arrêtent pas au seul créneau de l'université d'été, car en effet, si l'on ne s'attarde que sur le PS et les Républicains, on est loin de leur objectif affiché des 500 000 adhérents d'ici à 2017. Et il faudra que les Verts redoublent de volonté et d'inventivité pour repasser au-dessus de la barre des 5 000 adhérents, surtout après le départ de François de Rugy et aujourd'hui de Jean-Vincent Placé qui parle de ELV comme d'une structure morte. Mais la formation des militants telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on va la connaître au cours de cette émission, ne nuit-elle pas à l'engagement politique des jeunes et surtout suffit-elle pour les fidéliser, régénérer les partis en question? Faut-il former les militants de demain? C'est notre sujet du jour. Et ils sont quatre pour en parler ce soir. Pauline Déhany, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militante Europe Écologie Les Verts et chargée de la formation à l'exécutif fédéral des jeunes écologistes. En face de vous pour discuter, Mathieu Guillemin, bonsoir.
Bonsoir Émilie.
Vous êtes militant Les Républicains, conseiller municipal à Vezin-le-Coquet en Bretagne. Vous êtes ancien secrétaire général des Jeunes Républicains et vous avez formé les Jeunes Pop. Vous êtes actuellement délégué national des Jeunes Actifs Républicains.
Tout à fait.
À côté de vous, c'est Achraf Benbrahim, notre troisième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes étudiant en droit et en sciences politiques. Et vous avez adhéré à 10 partis politiques, du Front National à Europe Écologie Les Verts, en passant par Lutte Ouvrière ou Debout la République, et vous en avez tiré un livre, Encarté, publié aux éditions Le Mieux. On va en parler au cours de cette émission. Et notre dernier invité est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu La Rochelle. Il s'agit de la sociologue Anne Muxel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à La Rochelle parce que vous participez aux universités d'été du Parti Socialiste qui ont débuté aujourd'hui même. Et vous êtes sinon directrice de recherche au CEVIPOF rattachée à Sciences Po. Vous travaillez notamment sur les attitudes et les comportements politiques. Alors aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, débutent les universités d'été du PS, du PC, de Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan et du Parti de Gauche. La semaine prochaine, ce sera celle du Front National. Celle d'après encore, ce sera au tour des Républicains de tenir ces universités d'été, des rendez-vous donc adressés aux militants. Et vous, Pauline Déhany, chez Les Verts, vous ne parlez pas d'université, mais de journée d'été. Qu'est-ce que ça implique au niveau du contenu de ces événements, au niveau surtout de la relation des responsables du parti avec ces militants ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que chez les Verts, les écologistes, on parle davantage de journée d'été. Mon interprétation personnelle, je dirais que c'est justement parce que ça reflète bien la dimension collaborative. On est vraiment dans l'optique d'un partage de savoir, des connaissances et des curiosités, davantage que dans une relation de sachant à apprenant. Donc voilà, pour répondre en quelques mots, je crois que la réponse est vraiment là sur cette dimension d'auto-formation. On a des militants qui sont spécialisés sur des sujets extrêmement varié finalement, et c'est vraiment un temps de mise en commun lors de ces journées d'été.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un complexe malgré tout, parce que vous dites que ça s'appelle les journées d'été alors que ça met l'accent quand même sur la formation, mais est-ce qu'il y a un complexe à afficher ces universités d'été comme un endroit de formation? Est-ce qu'il y a un effet repoussoir de la formation politique?
Je ne pense pas qu'il y ait d'effet repoussoir, bien au contraire. Et là, pour répondre davantage sur le volet jeunes écologistes, en amont des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, les jeunes écologistes organisent un forum ouvert sur 4 journées. En l'occurrence, cette année, on était vraiment dans l'autogestion également, en plus de l'auto-formation, puisqu'on a développé nous-mêmes un camp où les militants peuvent venir du coup à moindre frais. Ça permet aussi d'évacuer cet aspect-là, mais ça permet aussi de se former à de l'écologie concrète. Donc il y a ce premier aspect-là. Et derrière, qu'est-ce qu'un forum ouvert ? C'est un forum où les militants vont décider d'eux-mêmes, en début du forum, des journées qu'ils souhaitent traiter. C'est-à-dire qu'on en discute collectivement et c'est les militants qui décident des sujets sur lesquels ils souhaitent échanger et se former. Donc non, pas de complexe à se former. Bien au contraire, on est dans l'échange.
Oui, justement, vous faites allusion à cet écolo-camp, ce camp destiné plutôt aux jeunes écologistes qui met l'accent aussi sur les nouvelles technologies, sur ce partage d'expériences entre jeunes encartés politiques ou futurs encartés au sein d'Écologie Les Verts. Chez les Républicains, il y a aussi cette volonté d'axer les formations, en tout cas de les présenter sous un jour un peu plus moderne. Est-ce que les jeunes militants sont censés savoir ce qu'ils viennent trouver dans ces universités d'été? Parce que je le disais tout à l'heure en introduction, les programmes restent quand même assez succincts. Par exemple, sur le site des jeunes républicains, il est impossible de cliquer sur le mot atelier ou forum pour en savoir plus.
Pour reprendre dans un premier temps le concept général d'université d'été, ce qu'on focalise là sur le volet jeune, c'est avant tout un temps de rentrée politique pour une formation de famille politique. C'est vrai que dans un certain nombre de familles politiques, et en l'occurrence chez les Républicains, ce volet est tourné vers les jeunes de manière un peu plus spécifique, mais c'est avant tout un temps de rentrée politique pour l'ensemble de notre famille. Par rapport au volet formation, est-ce que c'est un repoussoir ou pas? Je voulais quand même aussi rebondir là-dessus.
Allez-y, oui.
On ira un peu plus loin dans le débat tout à l'heure, mais je crois vraiment pas que la formation soit un repoussoir. On pourra sans doute aller plus loin tout à l'heure, mais lorsque l'on s'engage en politique, c'est pour des raisons diverses, liées à la diversité de chacun. Il y a un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui vont venir en politique parce qu'ils ont envie de participer à des débats. D'autres ont la volonté de s'investir plus durablement et de vouloir prendre des responsabilités en interne. D'autres de vouloir prendre des responsabilités en externe en devenant élus. Donc on est obligé de répondre à toutes ces envies particulières et à cette diversité. C'est pour ça que les ateliers qui sont proposés sont aussi divers et permettent aussi d'emmagasiner un certain nombre d'informations par rapport au quotidien, par rapport au secteur économique, par rapport à tous les pans aujourd'hui de réflexion et d'action. Et en même temps, de rencontrer un certain nombre d'experts que l'on n'a pas forcément la chance de rencontrer à l'extérieur.
Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de communiquer un peu plus en amont par rapport aux jeunes militants qui se posent encore la question de savoir s'ils vont aller franchir le pas de cette université d'été? On a l'impression, quand on regarde les sites des différentes universités d'été, que ce soit celle des Républicains, celle des Verts, celle du PS, qu'on ne s'adresse vraiment qu'aux militants convaincus ou en passe de lettres.
Ça reste quand même, enfin, comme je
le
disais
tout à
l'heure,
un
moment de rentrée politique d'une famille politique. Donc c'est vrai que la cible principale va être les militants en tant que tels. Ça reste quand même un lieu d'ouverture, un lieu d'échange, que ce soit au PS, chez les écologistes, chez les Républicains. Mais c'est vrai que c'est le moment où, pour marquer le cap, pour marquer le début de l'année politique, on se rassemble principalement en famille, avec la volonté de s'ouvrir, mais on se rassemble principalement en famille.
Achraf Ben Brahim, vous qui avez donc fréquenté une dizaine de partis politiques, qui vous êtes encarté donc au sein d'une dizaine de partis politiques, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la formation peut dissuader d'entrer dans un parti, peut au contraire vous inciter à le faire, à vous pousser un peu plus dans votre engagement politique?
Bon, vous avez commencé par parler des universités d'été comme un lieu de formation, d'échange. Là où un peu on s'empoigne amicalement pour savoir les thématiques sur lesquelles on va apporter notre contribution et pour avoir participé à trois universités d'été.
C'est en tout cas comme ça qu'elles sont présentées sur les sites internet et des différents partis.
Il n'y a rien d'ouvert, il n'y a strictement rien de collaboratif là-dedans. Ce sont surtout des rentrées, donc politiques, comme, comme l'a souligné Guillaume avant moi, et qui sont là pour impulser en fait la dynamique du parti. Les militants ne viennent pas là pour se ressourcer, pour dire je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela. Ils viennent pour entendre les caciques du parti dire ce qu'ils ont à dire, et ensuite ils vont reprendre eux-mêmes ce qui a été dit. Et pour s'en apercevoir, il suffit de regarder, bon, vous allez interviewer les militants, plein, mais énormément de militants, comme au PS avec les frondeurs, vont vous dire « je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela ». Mais est-ce que ces doléances, est-ce que ces différences sont prises en compte? Absolument pas. Donc tout est déjà décidé d'avance, et ça fait peur de le dire, mais il n'y a rien de pédagogique là-dedans.
Il n'y a pas de débat interne?
Mais il ne peut pas y avoir de débat. À partir du moment où un parti commence à se fragmenter, c'est toute la stratégie électorale qui est en doute. Et pour justement pouvoir avancer dans un parti politique, vous avez beau être honnête, vous avez beau être scrupuleux ou autre, ou bien intentionné, si vous n'engrangez pas de score, vous n'avez pas de rentrée fiscale. Si vous n'avez pas d'entrée fiscale, vous ne pouvez pas faire de campagne digne de ce nom. Donc, s'il y a bien intérêt à ce qu'il n'y ait pas, s'il y a en tout cas une logique sectaire, ce n'est pas parce qu'on n'accepte pas les débats, mais parce que les débats divisent. Je vois ces deux militants hocher la tête, mais
on va les débattre, entendre juste après problème, sur cette question. Problème.
Mais en tout cas, non. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça, et c'est un peu ce que je regrette dans mon livre.
Mathieu Guillemin, justement, vous réagissiez aux propos de Achraf Ben Brahim.
Oui, enfin bon, je peux comprendre ce type de sentiment. En même temps, je dis attention à l'utilisation des mots. On peut pas dire que les universités d'été, quelle que soit la formation politique, soit un événement sectaire. On peut pas dire que les universités d'été, quelle que soit
la formation, en tout cas, ne sont pas présentées comme telles.
Quelle que soit la formation politique, soit un lieu où il n'y a pas de micro, où il n'y a pas d'échange. Ce sont des lieux d'échange. Ce sont des endroits où on peut rencontrer des élus nationaux. Ce sont des endroits où on peut rencontrer des élus locaux. Ce sont des endroits où on peut rencontrer des experts de la société civile. Ce sont des endroits où on peut rencontrer un certain nombre de personnes, parfois des formations politiques différentes. Ce sont des lieux d'échange. Après, ce sont des lieux d'échange qui peuvent être contraints, comme on le voit en ce moment, désolé, hein, mais chez les Verts ou chez les socialistes, avec des agendas politiques personnels qui viennent un peu griller les ondes sur ce temps-là. Mais je persiste et je signe en disant que ce sont des endroits ouverts, ce sont des endroits qui marquent le temps de rentrée politique d'une famille.
Je voudrais qu'on entende Anne Muxel sur cette question, parce que vous, Anne Muxel, vous êtes présente aux universités d'été donc du Parti Socialiste à La Rochelle en ce moment même. Vous venez d'y animer une conférence sur la montée des extrémismes. Et là, au moment même de notre émission, il y a aussi un atelier intitulé « Quelle réponse à la crise démocratique ?» Ce sont des thèmes qu'on retrouve un peu à chaque université d'été du Parti Socialiste. Vous, quelle remarque, quelle réponse, quelle réaction des militants présents vous entendez là-bas depuis ce matin ?
Bon, écoutez, de toute évidence, ces universités d'été, bien sûr, sont des moments, ça l'a été dit, ce sont des moments de rentrée politique, ce sont des moments, on va dire, de ritualisation, finalement, de la vie aussi des partis politiques et des militants. Hein, donc des moments de rencontre, de communion, d'échange, de débat, qui sont assez importants et assez investis. Il y a ici, à La Rochelle, beaucoup de militants du Parti Socialiste, et il y avait, en tout cas dans la conférence débat que j'ai animée tout à l'heure, beaucoup d'interventions dans la salle, de questions. Donc je dirais d'ailleurs plus qu'un moment de formation, c'est un moment de confrontation. Car aujourd'hui, la formation des militants n'a finalement plus rien à voir avec ce qu'elle a pu être dans le passé, notamment dans certains partis traditionnels, comme ce que l'on a pu connaître par exemple au Parti communiste, où il y avait vraiment de véritables écoles de partis où il fallait vraiment acquérir un certain nombre de notions, d'usages, de dogmes, d'éléments, de lignes, de discours, et où on apprenait à être un militant. militant. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. La pratique militante, elle s'est beaucoup individualisée. Les partis politiques ne peuvent plus être les vecteurs d'une seule ligne de conduite ou d'une seule définition de ce que peut être la panoplie d'un militant. Alors moi, je retiens plutôt de ces moments forts de la vie des partis et des rentrées politiques comme des moments vraiment d'échanges, de débats, de confrontations. Il y avait beaucoup de militants qui n'étaient pas forcément d'accord tout à l'heure. Il s'agissait de débattre de la façon dont il fallait réagir à la montée du Front National, notamment à l'attractivité du Front National pour les jeunes électeurs.
Et quelles réponses leur sont données dans ces cas-là?
Voilà, ils n'avaient pas forcément les mêmes visions. Il n'y avait pas un cacique du parti pour leur dire il faut que vous fassiez ci et ça. Donc on était d'abord dans une situation d'interrogation.
Que vous posaient les gens qui étaient présents donc à ces conférences, quelles réponses vous leur apportiez sur, par exemple, comment faut-il répondre au Front National et à la montée des extrémismes aujourd'hui? Quelles réponses on leur apporte au sein du Parti Socialiste dans ces universités d'été?
On leur apporte en tout cas des confrontations, de visions d'experts, puisque moi je suis là comme un expert et j'intervenais avec Jean-Yves Camus qui en est un autre spécialiste du Front National. Donc on n'est pas là pour donner des directives en tant que membre du Parti Socialiste, mais simplement on attirait l'attention sur la nécessité notamment de peut-être ne pas assimiler tous ces électeurs à l'extrême droite, de ne pas de rechercher finalement le dialogue, de s'interroger sur les vrais clivages sociaux, politiques, culturels, les clivages de valeurs qui peuvent conduire les électeurs aujourd'hui à rejoindre, à donner leur voix à un parti tel que le Front National. Donc c'est plus, comment dire, plus que de la formation, c'est une forme de problématisation qui était collectivement menée. Donc je ne peux pas vous rapporter tous les éléments de deux heures de débat.
Il faudrait
une autre émission d'ailleurs sur ce sujet, même plusieurs, parce que c'est un sujet très difficile où les réponses politiques ne sont pas simples. Mais là, si l'on est juste du côté de la formation et de la réflexion sur la formation, l'idée c'est de faire réfléchir. Et je crois que beaucoup d'universités d'été aujourd'hui, de partis politiques quels qu'ils soient, c'est d'abord de faire réfléchir les militants. Et ça a changé par rapport au militantisme traditionnel, où il ne s'agissait pas de faire réfléchir les militants, il s'agissait davantage de leur donner une sorte de prêt-à-porter, de prêt-à-penser du militant qui allait devoir aussi accomplir des tâches très concrètes,
de militants. Pauline Déhany, je voudrais vous faire réagir sur cette question. Le militantisme a changé, il n'y a plus une seule ligne aujourd'hui de pensée, il y a plusieurs il y a plusieurs militantismes au sein d'un même parti.
Je pense effectivement qu'il y a plusieurs formes de militantisme au-delà des partis. Je dirais que les jeunes écologistes ont vraiment cette spécificité, d'avoir un pied dans la sphère politique et un pied dans la sphère associative. Et dans une optique d'écologie politique, c'est indispensable pour re-questionner les modèles sociaux, repenser le modèle de demain, vraiment de partager ses savoirs. Et à partir de là, je dirais qu'il y a un autre élément aussi que je voulais rajouter lors de ces journées d'été. Il y a avant tout, c'est un moment de convivialité, c'est-à-dire que les militants se retrouvent, échangent, vont partager ensemble. Et on est vraiment, je partage ce qui vient d'être dit, dans une démarche d'éducation populaire, politique, citoyenne et écologiste. C'est pour ça qu'on a amené nous-mêmes à construire aussi nos ateliers. D'ailleurs, chaque année, lors de nos forums ouverts des jeunes écologistes, on accueille toujours des militants qui ne sont pas jeunes écologistes, qui viennent par curiosité, qui ont envie d'échanger, etc. Ça n'est vraiment pas un problème. Bien au contraire, ça vient enrichir les débats. Et après, sur l'aspect, je dirais, plus formel, journée d'été, encore une fois, on est acteur, on n'est pas dans une démarche de recevoir des savoirs. Bien sûr, on apprend énormément de choses, il y a des intervenants de qualité, mais on est aussi dans la construction, c'est-à-dire qu'en amont, les jeunes écologistes sont interrogés par Europe Écologie Les Verts pour proposer des thématiques d'atelier. Donc les sujets sont réfléchis par l'ensemble des militants. Cette année, par exemple, les jeunes écologistes animaient lors des journées d'été la plénière sur le climat, des ateliers sur les pratiques sexistes au sein du militantisme, un autre atelier sur le génocide de Rwanda.
Tous ces ateliers au sujet très divers, qu'est-ce que ça implique? Et j'imagine qu'il y a aussi j'ai vu sur le site des universités d'été des Républicains qu'il y avait plein de forums, plein d'ateliers aux thèmes extrêmement divers. Qu'est-ce que ça implique sur aujourd'hui l'engagement politique des militants qui viennent participer à ces universités? ces différentes lignes ?
Ça implique qu'une formation politique est en mouvement permanent. La société est en mouvement permanent. Et on a souvent, on entend souvent, les gens s'écartent de la politique parce qu'ils ils sont déçus, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas assez de réflexion, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas assez d'action. Donc les formations politiques, quelles qu'elles soient, sont obligées d'évoluer fortement. On parlait avant d'un militantisme à l'ancienne, que l'on a peut-être ici quelques-uns autour de la table pu connaître, où on se retrouvait à être des colleurs d'affiches.
Vous faites allusion à quelle partie, à quelle formation ?
Toutes les formations politiques ont eu ces épisodes-là dans leurs histoires respectives. C'est du militantisme de terrain qui continue encore aujourd'hui, mais qui n'est plus le militantisme principal. Et tout le monde a accès à l'information, les plus jeunes. Effectivement, je ne sais pas s'ils s'individualisent, en tous les cas, restent très fortement politisés, même si leur engagement en tant que tel, avec une carte dans une formation, reste encore relativement faible. Mais il y a une politisation des jeunes, un accès à l'information, les choses bougent très vite. Voilà. Chacun a un positionnement sur ce qui se passe, sur ce qu'il vit dans son socle familial, sur ce qu'il vit dans son engagement associatif, dans ce qu'il vit dans son engagement estudiantin ou dans son engagement professionnel. Donc chacun a un positionnement. Et il faut que ce positionnement, il soit à un moment ou à un autre exprimé. Et exprimé à celles et ceux qui aujourd'hui ont la capacité d'agir. Alors, ces moments de rentrée politique sont pour moi très importants, justement, pour qu'il y ait cette expression et surtout cette confrontation pour amener nos responsables à faire bouger les lignes.
Tout à l'heure, Pauline Dehany parlait de ce moment d'échange que pouvaient représenter aussi les universités d'été. Ce à quoi Achraf Ben Brahim ne pourra pas vraiment répondre. Oui, voilà. vous ne pourrez pas vraiment être d'accord avec ce propos. Alors, vous, dans votre livre Encarté, vous écrivez, dans le prologue, en tout cas au début, la politique, c'est surtout des plans de carrière et des affirmations où l'on ne distingue que trop rarement la posture narcissique de la conviction, le dévouement, de l'intéressement, la vérité
le
du mensonge.
Le narcissique en trop.
Ah d'accord, très bien. Je pense avoir recopié très fidèlement la citation.
Non.
Toutes mes excuses.
Non,
donc vous dites par rapport à cette phrase que j'ai relevée, c'est donc, est-ce qu'on peut dire que vous pensez que c'est donc la fin d'un engagement politique de conviction ? C'est ce que vous avez observé ?
C'est ce que j'ai observé, mais j'entends bien évidemment ici... les deux autres jeunes qui débattent avec moi, et à les entendre, j'ai un petit sourire, mais qui n'est pas synonyme de mépris. C'est que tout est au mieux finalement dans le meilleur des parties possibles, quoi. Les gens viennent, débattent, ils échangent avec les élus, c'est formidable. Et comme l'a souligné Guillaume, je suis d'accord pour dire que ce sont les militants qui font vivre le parti. C'est eux qui collent, c'est eux qui tractent.
Mathieu Guillemin, oui.
C'est ça. Ce qui serait intéressant de voir, en revanche, c'est de voir si ces militants ont leur mot à dire et si leurs doléances sont prises en compte. Et là, je peux vous dire à 200% que ce n'est absolument pas le cas. J'ai participé à l'université d'été des jeunes pop, le nom des ex-républicains, en 2013, dans la très modeste ville de Puteaux, au très modeste palais des sports de Puteaux plus précisément. Et parmi tous ceux qui se sont succédés à la tribune, il n'y avait pas un seul militant. Il y a eu Valérie Pécresse, il y a eu Roger Carucci, il y a eu Jean-François Copé. Et toutes ces personnalités politiques-là n'ont jamais distribué de tracts sous la pluie.
On n'accorde pas une place suffisante aux militants aujourd'hui dans des partis politiques.
Absolument pas. D'ailleurs, lorsque vous regardez le parti, les bureaux politiques des revendiqués républicains ou des revendiqués socialistes, pas un seul ne vient de la société civile. Et ce qui me frappe, moi, beaucoup, c'est qu'ils n'ont aucune légitimité parce qu'ils n'ont gravi aucune échelle militante. Ce sont des gens qui se sont connus à l'ENA, à Polytechnique, et qui n'ont jamais eu besoin de faire leurs preuves. Si je prends l'exemple de Nathalie Kosciusko-Morizet, ce n'est pas quelqu'un qui a tracté ou qui a milité. Après Polytechnique, elle a été prise comme suppléante pour sa circonscription, donc dans l'Essonne. Et une fois que le député qui s'est fait élire s'est fait nommer ministre, automatiquement le siège de député lui est revenu. Pareil pour Jean-François Copé, pareil pour Laurent Wauquiez, pareil pour à peu près tout le monde.
Ne vous inquiétez pas, on peut dire pareil aussi à gauche,
exactement,
au centre,
c'est bien pour ça que
vous avez que j'ai focalisé sur la droite.
Non, absolument pas. C'est bien pour ça que j'ai précisé revendiqué socialiste.
On adhère à un parti politique aujourd'hui par ambition professionnelle plus que par réelle conviction politique. C'est ça que vous voulez dire?
C'est une question trop large pour pouvoir prendre le cas par cas. Mais
de ce que vous avez observé en tout
voilà,
cas.
Voilà, en tout cas, ce que je constate, c'est que si c'est vraiment on veut prendre du galon, si on veut avoir la chance de marcher devant et de poster haut ses idées, ce n'est sûrement pas en militant qu'on va y arriver. Au contraire, il y a des lieux de socialisation pour ça. Et il suffit, encore une fois, je n'invente rien. Regardez la composition des bureaux politiques et vous verrez qu'aucun, au grand jamais, n'a grelotté sur la pub pour distribuer des tracts à des passants différents ou à coller ou rentrer chez lui avec de la colle plein les vêtements. Ça va du FN jusqu'au enfin, voilà quoi.
Mathieu Guillemin ne semble pas du tout d'accord avec vous.
Bon, je vais d'abord rassurer mon voisin.
J'ai pas besoin de rassurer, mais c'est gentil.
Vous avez à vos côtés quelqu'un qui a 15 ans de militantisme derrière lui et des soirées à coller, des soirées à tracter. J'en ai fait quelques-unes. Non, je voudrais rebondir. J'entends le discours qui est porté. Là encore, essayons de ne pas être caricatural. C'est déjà assez compliqué comme ça.
C'est-à-dire
mais tout ce que les uns et les autres vivent au quotidien, on le disait tout à l'heure, il y a une défiance vis-à-vis du politique. Mais ce n'est pas en tenant un discours aussi caricatural qu'on fera en sorte d'avancer les choses. Vous avez eu cette expérience d'aller dans une dizaine de formations politiques, dans un espace très restreint. Vous y êtes donc resté dans chacune d'entre elles pour un espace de quelques semaines, voire de quelques mois. Vous parlez des Républicains, parce que c'est le domaine que je connais le plus. Donc je vais vous répondre. Quand vous me parlez des universités d'été à Puteau, très bien, ce ne sont pas des universités d'été de ma famille politique. C'est à un moment donné une rencontre politique pour un département. Voilà. Donc déjà, vous faites une première erreur. Vous parlez de 2013, vous arrivez à un moment que tout le monde connaît, que je regrette malheureusement, qui était un moment compliqué pour notre famille politique, puisque 2013, c'est quelques mois après la guerre Copé-Fillon. Donc, lorsqu'on voit qu'aujourd'hui encore on porte les stigmates de ce mauvais épisode, vous comprendrez bien que je suis pas certain que ce soit le meilleur temps politique que vous ayez choisi. Et à côté de ça, moi vraiment, je suis du terrain. J'ai passé plusieurs années à militer. J'ai parcouru tous les départements de France. Par rapport aux militants qui sont sur le terrain, par rapport aux élus locaux qui sont sur le terrain, on peut pas dire que rien ne se passe, que rien ne se fait, que tout est négatif. Il y a des initiatives sur les territoires qui sont très positives. Il y a des gens qui passent du temps à ne plus savoir quoi en faire. Il y a des gens qui s'investissent. Voilà, on ne peut pas s'arrêter à deux, trois choses caricaturales. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer dans nos formations politiques ? Oui. Est-ce qu'on doit laisser plus de place aux jeunes ? Je le pense profondément. Est-ce qu'on doit le faire en particulier dans ma famille politique ? Oui.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Faut-il former les militants de demain ? On en parle, on répond à cette question avec la sociologue Anne Muxel, avec la militante écologiste Pauline Dehany, avec le militant Les Républicains Mathieu Guillemin et avec Achraf Ben Brahim, multimilitant qui a donc écrit ce livre Encarté. Je voudrais juste vous poser la question, Anne Muxel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Achraf Ben Brahim, qu'aujourd'hui les partis politiques laissent trop peu de place aux militants ?
Bon, je crois qu'il y a une part de vérité dans ce discours, mais je suis aussi d'accord avec ce qui vient d'être dit par Mathieu Guillemin. Donc, il y a évidemment toujours la revendication de la part des militants et tout particulièrement aussi des sections jeunes, des partis politiques, de ne pas être assez entendus, de ne pas être assez pris en compte par les responsables politiques. Mais à la différence de ce qui peut se passer dans l'ensemble de la société française, où il y a effectivement cette défiance politique et ce hiatus très important entre les représentants et les représentés, là on a effectivement aussi peut-être un hiatus important entre les militants et les responsables politiques. En même temps, c'est différent du côté des militants, c'est qu'ils sont politisés, c'est qu'ils sont affectivement dans une démarche d'attachement et de mobilisation pour un parti politique et derrière ce parti politique pour un certain nombre de causes, de valeurs, d'enjeux à défendre. Donc ce sont des des gens impliqués. Alors bien sûr, on peut toujours ressentir cette faille, ce fossé hein, entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas d'une certaine façon. Mais cette demande de démocratisation hein, qui sourd dans l'ensemble de la société civile et que l'on retrouve évidemment à l'œuvre dans les appareils politiques. Mais je crois qu'il faut pas être non plus trop caricatural. Je pense que les partis politiques sont aussi des lieux dans lesquels, des lieux de socialisation politique, des lieux dans lesquels on fait ses armes, on fait ses gammes, on fait son apprentissage politique et où, si on veut en tout cas faire une carrière politique, aller plus loin, on est obligé d'en passer par là.
Achraf Ben Brahim, vous, dans votre livre, parmi les dix formations politiques, les dix partis que vous avez fréquentés, lequel a porté la plus grande attention à cette dimension de la formation des militants?
Je peux par exemple citer, à titre d'exemple, hein, mais il n'y a pas que ce parti, le parti de gauche, qui organise pour ses militants ce qu'ils appellent les jeudis du parti de gauche. Ce sont des petites sessions pédagogiques qui portent sur un sujet donné comme l'environnement, l'économie, la santé, et qui sont animées par des universitaires bénévoles ou un étudiant en thèse et qui viennent y livrer leurs conclusions, leurs analyses et leurs études. Après ça, il y a un échange. Donc moi, je trouvais que c'était une très bonne idée et il m'arrive de temps en temps d'y aller, en fait. Bon, évidemment, là encore, bon, ils prêchent un peu pour leur église, parce qu'ils ne vont pas donner... pour moi, je trouve qu'il y a un manque de recul. Mais en tout cas, l'initiative est bonne et elle est à saluer à chaque fois qu'un parti le fait.
Est-ce qu'il y a vraiment, comme on peut le lire parfois dans quelques analyses de politologues, de sociologues, une professionnalisation des partis politiques? Est-ce que vraiment les responsables des partis, les formateurs, s'adressent vraiment à une même catégorie de jeunes, plutôt diplômés, qui ont accès justement à une culture politique? Est-ce que aujourd'hui il y a encore une prise de risque dans certains partis de s'adresser à des jeunes peut-être moins diplômés, peut-être moins enclins à l'apprentissage d'une parole politique, mais plus porteur d'idées?
Alors, puisque nous avons l'honneur d'avoir une sociologue avec nous, pour un peu préparer, entre guillemets, cette discussion, je me suis appuyé sur les écrits de Dominique Schnapper et et des écrits du CNRS et du CVPOF, allant même jusqu'à Cécile Van de Velde. Et
le sociologue de la jeunesse.
Ça, exactement, mais malheureusement pour nous, il est parti enseigner au Canada, je crois. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de mixité sociale.
Et vous n'avez pas observé de mixité sociale dans les partis que vous avez fréquentés?
Non, ce n'est pas partout pareil, mais en règle générale. Moi, j'essaie toujours de raisonner en quantité. Ce n'est pas partout pareil. À Lutte Ouvrière, il y a énormément d'étudiants. Par contre, c'est à l'image, en fait, de la société civile à l'Assemblée nationale. Combien y a-t-il d'ouvriers, d'artisans, de fonctionnaires de catégorie C à l'Assemblée nationale ou au Parlement? Le problème aujourd'hui en France, c'est que le parlementaire, le politique, réside toujours, malheureusement, en un mâle calvitié et bedonnant, excusez-moi du terme, de 55 ans, souvent ancien notable, ancien cadre ou haut fonctionnaire. C'est bien pour ça que l'âge moyen des parlementaires et de je crois 59 ans pour l'Assemblée nationale et de 65 ans pour le Sénat. Donc il y a une confiscation de la pratique décisionnelle en France, et c'est bien pour ça que les militants fuient les partis politiques pour les voir rejoindre, ce qui n'est pas rare d'ailleurs, et massivement le secteur associatif. Des associations comme Zubdoco ou la FEV comptent en grande majorité des étudiants dans leur rang, voire exclusivement des étudiants pour certains domaines.
Sur cette question, je voudrais entendre Anne Muxel. Est-ce que vraiment, vous qui avez travaillé sur les comportements politiques des jeunes aussi, est-ce que vous constatez ce départ du parti politique vers le milieu associatif? Est-ce qu'on peut vous refusez de parler de dépolitisation pour autant, Anne Muxel?
Oui, mais je crois que on se pose la question dans cette émission de la formation,
oui, hein,
des militants. Et c'est pas tellement la question de la formation qui est la plus importante aujourd'hui pour les partis politiques. C'est la question d'abord de leur attractivité, de l'attrait qu'ils peuvent représenter, de la façon dont ils sont capables de susciter des engagements.
Et deuxièmement,
c'est la vraie question aussi pour eux, c'est qu'une fois que les jeunes ont pousser la porte de ces partis et régulièrement ils la poussent à l'occasion de certains événements qui viennent les interpeller, les mobiliser. Ils poussent la porte des partis politiques. Après, la question qui se pose aux partis politiques, c'est de les garder, ces militants. Et donc c'est plus ça, je dirais, aujourd'hui, le défi des partis politiques, c'est plus ce défi-là que de former les militants. Parce que je rappelle que des jeunes et moins jeunes du reste qui font partie d'un parti politique, c'est entre 1 et 2% de l'ensemble de la population. Donc c'est de toutes les façons une extrême, infime minorité.
Mais est-ce que ça
trouve beaucoup plus de personnes dans les associations? Effectivement, parce que les associations font l'objet d'un passage à l'acte, à l'adhésion peut-être plus facile, mais aussi sont créditées de davantage de confiance et que l'on considère aussi qu'elles sont plus efficaces dans la mobilisation d'un certain nombre de causes à défendre. Mais il y a là, pour les partis politiques, depuis un certain nombre d'années maintenant, et c'est la même chose pour les syndicats, hein, on a ce même problème, il y a de moins en moins de personnes qui rejoignent les rangs des militants des partis politiques ou des syndicats en France.
Et qui restent. Il y a aussi chez les Verts un turnover très important de militants, plus de la moitié qui se renouvelle chaque année. Chez les Verts, on avait mis au point ce qu'on appelait la coopérative, c'est ça, Pauline Déhany, c'est une sorte de réseau alternatif d'écologistes non encartés pour un militantisme un peu plus léger, militer au sein des Verts sans forcément prendre sa carte et vraiment s'engager. Qu'est-ce que ça a donné au final,
oui,
ce genre
tout à
de
fait.
Pratique?
C'est vrai, à côté du statut d'adhérent chez Europe Écologie, il y a également le statut de collaborateur, c'est-à-dire que les personnes vont militer, vont s'impliquer, mais ne vont pas prendre part au processus décisionnel de désignation des candidats, des choses comme ça. Après, pour davantage sur les jeunes écologistes, je crois l'important pour nous, c'est vraiment de permettre l'émancipation individuelle des uns et des autres, que chacun se sente acteur, se sente citoyen. À partir de là, une fois qu'on donne l'objectif des clés de compréhension de la société, une capacité à la critiquer, à reconstruire, finalement, peu importe que le militant ensuite s'épanouisse au sein d'un parti, ou bien au sein de la société civile, ou d'une entreprise, c'est-à-dire que l'engagement ensuite va prendre une forme qui sera très personnelle. Et je voulais aussi faire le parallèle, c'est vrai que certainement le militantisme évolue, à mon sens, aussi en dehors des partis, les deux sont vraiment complémentaires, avec les mouvements citoyens de type Alternativa. Alors, c'est peut-être pas du militantisme politique au sens où on l'entend habituellement, pour autant ce sont des vrais militants de terrain, et je crois vraiment qu'il ne faut pas opposer le militantisme à l'intérieur des partis et en dehors. On a besoin de l'ensemble des intelligences collectives et la créativité des uns et des autres pour reconstruire et repenser des modèles.
Mathieu Guillemin, sur cette question.
Oui, enfin, on dit les militants s'en vont, et notamment les plus jeunes. Enfin, je rappelle juste qu'un jeune, il a quand même plusieurs phases dans sa... Dans les années qui l'accompagnent au monde adulte, entre guillemets. Enfin, d'abord, il se retrouve collégien, lycéen, enfin, en l'occurrence lycéen, puisqu'on peut adhérer à un parti politique à 16 ans. Il se retrouve étudiant et ensuite il commence son activité professionnelle. Dans les trois cas que je viens de citer, la probabilité qu'à un moment ou un autre, il soit amené à bouger d'un point à un autre est quand même très grande. Donc son investissement va pouvoir se retrouver modulé par rapport à ça. Par rapport au secteur associatif, je dis attention à l'effet miroir. Dans une association, on est là pour un but très précis, généralement unique, avec une notion de proximité et d'efficacité qui est quasiment immédiate. La formation politique, on va toucher à tous les domaines, et le résultat final s'inscrit dans un temps moyennement long. Donc on peut pas assimiler les deux. Et ensuite, j'entends qu'on dit que il y a pas de débat, on n'est pas entendu. Mais c'est comme dans tous les milieux, dans le milieu professionnel, il y a un moment, il faut aussi savoir s'affirmer. Lorsqu'on a des convictions et qu'on y croit profondément,
c'est pas au parti d'écouter, c'est plus aux jeunes militants d'arriver et de s'affirmer.
Bien évidemment, enfin le parti en tant que tel est un lieu d'échange. Après tout échange, il y a un moment où on fixe un cap. Et une famille politique doit fixer un cap. Ça paraît, je pense, tout à fait naturel. Qu'il y ait des individualités à un moment ou un autre qui décident de porter tel ou tel discours. Oui, mais il y a un moment, il faut créer une unité dans la parole qui est donnée. Sinon, on se retrouve avec une multitude de personnalités qui dit ci, qui dit ça. Et finalement, les gens ne s'y reconnaissent plus. C'est une problématique. En revanche, je rejoins ce que disait mon voisin. On a aujourd'hui besoin, effectivement, dans la classe politique, dans ma formation politique comme dans les autres, d'un renouvellement qui soit beaucoup plus marqué, que ce soit sur les origines sociales, que ce soit sur les parcours professionnels, que ce soit sur les âges. Ça, j'y crois profondément. J'étais membre de la commission des statuts qui a mis en place les Républicains. On a été un certain nombre à porter ce type de positionnement. Et je crois que ça viendra.
Justement, Achraf Ben Brahim, dans votre livre aussi, ce qu'il ressort, c'est que si vous n'êtes jamais resté, ou en tout cas resté moins longtemps que prévu dans chaque parti que vous avez fréquenté, c'est aussi parce que la formation qu'on vous y attribuait vous désolait. Je pense à celle qu'on vous a, je pense au chapitre justement consacré à l'UMP et à cette formation, cette séance de formation assez drôle dispensée par Patrick Balkany, le maire de Levallois, qui vous disait, qui disait par rapport aux séances de tractage dans les marchés, dites-leur qu'on vit mieux dans les villes de droite et si les gens vous cassent la tête avec des divisions, dites-leur que Nicolas Sarkozy reviendra et passer à autre chose. Fin
sans
de la
prophète,
formation. Mais justement, est-ce que ce n'est pas dans la formation que l'on reçoit dans ces formations politiques, dans ces partis politiques, qu'on peut donner lieu justement à une certaine pérennité du militant à l'intérieur du parti, de son activité en tout cas, à l'intérieur du parti.
Très bien, mais vous l'avez dit vous-même, même si je prends le risque de paraître un peu exalté, un peu caricatural.
Pas vraiment, ça va.
Ça va, bon, ça va. Merci du compliment.
Allez-y.
Le problème, c'est... En quoi consiste la formation, en fait? En quoi consiste la formation? Est-ce que c'est fait pour vous donner les moyens d'être critique, d'aborder des thématiques que vous n'avez pas l'occasion de voir au quotidien? Bien évidemment que non. C'est un kit pour demander et pour dire aux militants, voilà comment convaincre. Voilà comment convaincre. Et dans le cadre, donc, vous avez cité cette fameuse réunion avec l'expert fiscaliste Patrick Balkany, il ne s'agissait pas par exemple de reprendre des chiffres de l'IGAS ou d'autres organismes ou des commissions clés à l'Assemblée nationale. Il s'agissait surtout de dire la gauche est méchante, le Front National ne peut rien faire, donc vous devez voter pour les revendiqués républicains. Et je vois Guillaume qui a deux doigts de s'arracher les cheveux.
Mathieu Guillemin
qui a deux doigts de s'arracher les cheveux. Mais je n'invente rien et ça ne me fait pas plaisir non plus de faire ce constat. Parce qu'à la base, je ne voulais pas faire un livre. Je voulais, après une déception militante, je voulais justement rejoindre l'un de ces partis en bout de course. Sauf que ce fut la douche froide. Et pour mettre un coup de pied dans cette fourmilière, j'ai écrit ce livre.
Mathieu Guillemin, répondez en 30 secondes si c'est possible.
30 secondes.
Top, c'est parti.
Premier point, je vous invite à venir chez moi en Bretagne. Vous allez voir ce que c'est que le militantisme en Bretagne. À mon avis, vous ne serez pas déçus.
Bah justement, en quoi ça consiste ?
Parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'entends là. Le militantisme, il est divers. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui font du militantisme de terrain. Je suis désolé, ce n'est pas inné d'aller sur le terrain au contact des gens sur un marché et de distribuer un tract. Voilà. Ce sont des choses qui peuvent s'accompagner. Ce n'est pas inné de pouvoir parler de données économiques ou de données sociales. On peut avoir une perception, ça c'est intéressant. Mais voilà, il y a des choses qui s'apprennent, qui s'accompagnent. C'est ce que l'on fait sur le terrain dans nos fédérations.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les quatre, d'avoir donc participé à cette émission. Peut-on former ou doit-on former le militant de demain? Anne Muxel, sociologue, merci à vous. Pauline Dehany, chargée de formation chez les jeunes écologistes. Mathieu Guillemin, délégué national des jeunes actifs républicains. Et vous, Achraf Ben Brahim, votre livre Encarté est disponible aux éditions Le Mieux. Vous pouvez réécouter cette émission et puis toutes les émissions du Grain à Moudre de l'été sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Un grand merci d'ailleurs, chers auditeurs, pour votre écoute, vos commentaires, vos messages sur Twitter et même vos chocolats pour certains. Et puis un immense merci à toute la fine équipe de ce mois d'août qui a pensé et préparé ces émissions avec moi: Charlie Dupiot, Fanny Richer, Virginie Leduo, Catherine Donnet, Mathieu Maroudin et Marie Vidal. Merci aussi à Anne Pérez, Lise Comé, Jean-Christophe Francis qui nous ont accompagnés à la réalisation de cette émission. À la prise de son ce soir, c'était Clément Daté. Dès lundi, c'est un Hervé Gardette en grande forme que vous retrouverez à cette place à partir de 18h20 du lundi au vendredi. Je vous souhaite une très belle fin d'été, une bonne rentrée à l'écoute de France Culture. Bonne soirée à tous et à bientôt.